Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis, on fait l'ouverture du Festival des Correspondances. Et je représente l'association Éclat de Lire, qui développe, parmi d'autres partenaires, toute la partie jeunesse et famille. Et aujourd'hui, on a vraiment deux invités de marque qui vont faire une lecture ponctuée de moments musicaux, une lecture surprise, puisque nous accueillons Jean-Claude Mourleva et Martin Mort. Et voilà, ça va être une vraie surprise. Et ils se sont vus un peu, ils ont un peu discuté avant tout ça. Jean-Claude n'a pas voulu nous dire ce qu'il nous préparait, donc ça va être encore meilleur, la surprise. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Merci, merci à toi. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous lire deux histoires que j'ai écrites. L'une, il y a déjà une vingtaine d'années, qui s'appelle « L'homme à l'oreille coupée ». C'était un petit ensemble de trois histoires dont les titres étaient « L'homme qui ne possédait rien »,« L'homme à l'oreille coupée » et « L'homme qui levait les pierres ». Et je l'ai beaucoup lu, celle-ci. Si je me trompe en lisant, je n'ai aucune excuse. C'est une façon de dire bonjour aux gens. C'est très court, ça dure 10 minutes, 12 maximum, cette lecture. Et ensuite, je lirai une nouvelle tirée d'un recueil qui s'appelle Silhouette, que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. Et ce sont des nouvelles cruelles, et qui ont toutes, il y a 10 nouvelles. Elles ont toutes en commun d'être contemporaines, très réalistes, ce qui n'est pas forcément ma spécialité. Et je me suis bien amusé, et donc je l'ai dit cruel. Elles se finissent toutes ou mal ou très mal, il faut le savoir avant de lire ou d'écouter. Et celle-ci se termine, vous verrez. Elle s'appelle Case départ, c'est une lecture un petit peu plus longue, une vingtaine de minutes, 25 si je prends mon temps. Et je serai donc accompagné par Martin, qui a perdu la moitié de sa guitare, mais c'est normal, et qui va intervenir donc dans une petite intro, c'est ça. Ensuite, entre ma première lecture et la deuxième, et au milieu de la deuxième, une petite ponctuation musicale aussi, je ne me trompe pas, hein. Et la conclusion à la fin de tout ça. Ben, je te remercie par avance, c'est donc toi qui t'y colle pour commencer.
Thank you.
L'homme à l'oreille coupée. Il y avait dans un port de la Norvège un très vieil homme à qui manquait une oreille. Comment l'as-tu perdu ? Lui demandait-on dans l'auberge où il venait s'enivrer chaque soir, et il répondait volontiers.
Mon oreille, bon, ça remonte à loin, disait-il. J'étais encore un petit garçon.
J'avais 9 ans à peine, alors voyez. Un cirque ambulant est passé dans notre village.
Oh, ça ne coûtait pas très cher, mais nous étions pauvres et mes parents ne pouvaient pas me payer l'entrée.
Alors, le soir de la représentation, j'y suis allé en cachette. Je me suis faufilé sous la toile du chapiteau, ni vu ni connu, et j'ai pris place dans les gradins. C'était plein à craquer. La musique assourdissante, l'odeur forte des animaux, tout ça, j'étais comme ivre. Il y a eu les chevaux qui tournaient, puis les acrobates voltigeurs, puis les petits caniches dressés. Ouais. J'en restais la bouche ouverte. Quelle émotion pour moi qui n'avais jamais rien vu. Enfin, le directeur du cirque a annoncé un numéro de fouet. J'ai oublié le nom de l'artiste, Paquito, Pancho, un nom comme ça. Il s'est avancé dans sa tenue de cow-boy, accompagné de son assistante, en maillot de bain, et ça a commencé. D'abord, l'assistante a mis une longue cigarette de papier dans sa bouche. Au premier coup de fouet, la cigarette a perdu 1 centimètre. À chaque coup, elle en perdait un de plus, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un minuscule mégot. Alors, elle a avancé ses lèvres, maquillées de rouge, comme pour donner un baiser, puis elle a légèrement basculé la tête en arrière, pour ne pas se faire couper le bout du nez, je suppose. Il y a eu un roulement de tambour et... clac, le mégot a volé. Ensuite, ils ont demandé un volontaire. C'est juste à ce moment-là que j'ai vu un camarade d'école en face de moi, là, de l'autre côté de la piste. Il me faisait de grands signes. Et j'ai levé le bras pour lui répondre. Hey. Hey. Et ils ont cru que je voulais venir. Ils m'ont mis une cigarette de papier dans les oreilles, une dans chaque. Et clac, clac. De quoi vous rendre sourd? Les gens applaudissaient, ils riaient aussi, sans doute à cause de mon air ahuri. Et puis tout à coup, j'ai entendu « Oh !» Ça faisait comme une vague dans les gradins. L'assistante s'est aussitôt évanouie. Et quelques spectatrices aussi. J'ai une petite parenthèse, si vous permettez. Je l'ai écrit il y a 20 ans, ça. Il y a 20 ans. Ça ne me gênait pas du tout d'écrire « L'assistante s'est aussitôt évanouie ». Quelques spectatrices aussi, pas les spectateurs. Après, je me suis rappelé que quand j'étais étudiant, j'avais travaillé dans un hôpital, je me suis évanoui le deuxième jour. L'infirmière, non, hein, c'était pas vrai. Bon, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Au moins, ça témoigne ce qu'on pouvait écrire il y a 20 ans, tranquillement, sans y penser. Bon, l'assistante s'est aussitôt évanouie et quelques spectatrices aussi. J'ai senti quelque chose de tiède qui dégoulinait dans mon cou. J'ai passé la main, et hey, c'était mon sang. Alors j'ai compris. J'ai regardé par terre et j'ai vu mon oreille, là, dans la sciure. J'ai oublié la suite. Je me revois transporté dans des bras étrangers. Je revois des gens très flous qui me tiennent les mains. Je revois surtout ma mère qui pleure et mon père qui lève les bras au ciel. « Ah, ce gamin, ce gamin !» Voilà comment je l'ai perdu, mon oreille. Ça vous évitera d'avoir à demander la prochaine fois. Le lendemain, il disait « Mon oreille, bon, j'avais 27 ans. J'allais me marier. Ma petite amie était bien amoureuse. Oui, bien amoureuse, ma foi. »
Et moi, je la trouvais assez gentille. D'après tout le monde, on allait drôlement bien ensemble. Et je crois que c'était vrai. Et puis, elle est arrivée. L'autre là, avec ses taches de rousseur sur le nez. Je suis tout de suite que j'étais fichu. À la première seconde, elle m'a électrocuté, cette fille. Je vous jure, elle avait été fabriquée sur mesure pour moi, depuis ses orteils mignons jusqu'à ses mèches blondes. Elle était toute jeunette. Pourquoi elle s'est jetée sur moi comme ça et pas sur un autre? J'en sais rien. J'étais même pas beau. Elle m'a fait tourner chèvre. J'essayais de l'éviter, mais c'était impossible. Elle me cherchait. Je t'aime, qu'elle disait. Je t'aime. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Je n'en voudrai jamais d'autre que toi. Et ainsi de suite. Et elle pleurait. Moi aussi, je pleurais. Parce que j'en étais tombé amoureux. Elle m'a rendu fou. Quoi? Si bien que j'ai fini par écrire une longue lettre à ma pauvre fiancée. Comme je n'arrivais pas à le lui dire, je l'ai écrit. Je vous jure, j'ai trempé le papier de mes larmes tellement j'avais honte, tellement j'étais malheureux. Je lui ai expliqué que j'allais partir avec une autre, que j'étais désolé, que la vie était mal faite et blablabla. Vous savez bien les bêtises qu'on peut dire dans ces cas-là. Et un soir, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai donné la lettre à ma fiancée. C'était dans sa cuisine. Je me suis assis à une chaise en face d'elle, tête basse, et j'ai attendu. Elle a lu, en silence, jusqu'au bout, avec un grand calme. Elle m'a regardé sans aucune expression, un peu comme si elle me voyait pour la première fois. J'ai pensé, l'espace d'un instant, que rien n'allait se produire, qu'elle me dirait « Eh bien, si tu veux me quitter, quitte-moi, et que je partirai, tout simplement, que je l'embrasserai une dernière fois, et qu'on se séparerait, bons amis, ou presque. » Mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. En effet, elle a replié la lettre, elle l'a posée sur la table, et puis, savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée sur moi. Ma chaise a basculé, nous avons roulé au sol tous les deux. Oh, j'ai bien tenté de me défendre, mais c'était sans espoir. Je me battais contre une véritable furie. Une panthère en rage, oui. Dans la lutte, elle a refermé sa mâchoire sur mon oreille. Chac ! Ah ! Ah ! Et elle ne l'a plus desserrée. Vous avez compris maintenant? C'est ma fiancée qui m'a arraché cette oreille avec ses propres dents. Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette histoire, ne m'en parlez plus. Le lendemain, il levait les bras au ciel. Vous me fatiguez avec cette oreille. Je vous l'ai dit 100 fois. C'était un soir où j'avais trop bu. Je me suis endormi contre un poêle et ça me l'a brûlé. Voilà. Le lendemain, elle n'avait pas brûlé, non. Mais je l'ai, au contraire. J'avais tout juste 20 ans et j'étais soldat. Mon unité est partie en campagne ce fameux hiver où la température est descendue à moins 60. Vous vous rappelez? Les oiseaux tombaient du ciel congelés. Quand on faisait pipi, ça gelait à mesure. Ah non, vous vous rappelez pas, vous êtes bien trop jeune. Qu'importe, une nuit, on nous désigne, un camarade et moi, pour aller repérer la position de l'ennemi. On nous met à chacun sur le dos un de ces grands manteaux de camouflage, là, tout blanc. Et nous voilà partis dans la neige. Pas fiers. On accomplit tout de même notre mission, tant bien que mal. Seulement, au retour, ça se gâte. On est pris dans une tempête, on se perd, on revient sur nos pas, on tourne en rond et on finit par se coucher dans la neige, serrés l'un contre l'autre. Le vent hurlait tellement qu'on s'entendait à peine. De temps en temps, on se criait « Ça va, toi ?» Et l'autre « Ça va, ça va ?» En réalité, on était sûr d'y rester. Mais au matin, on a entendu des voix. « Oh, les gars, oh. Vous êtes morts ?» Non, non, on n'était pas morts. On était juste enfouis sous la neige. Un des soldats nous avait marché dessus par hasard. Et nous ont chargés sur leurs épaules, ramenés au camp. Le capitaine se pointe. Il nous félicite. Et puis, il a voulu imiter Napoléon, qui pinçait l'oreille de ses grognards pendant la retraite de Russie. Il avait vu ça sur des images, sans doute. Bon, il prend la mienne d'oreille entre le pouce et l'index et il la secoue un peu. Seulement, elle était gelée, mon oreille. Ça a fait... clink. Comme quand on casse un glaçon sous un toit. Clink. Et l'oreille lui est restée dans les doigts. Ah, vous auriez vu sa tête. Ça vous embouche un coin, non? Et pourtant, c'est la vérité vraie. Le jour d'après, il l'avait perdue à la suite d'un pari stupide dans un port de Java. Ou bien il l'avait vendue à un milliardaire à qui il en manquait une. Un ours la lui avait arrachée dans le Grand Nord canadien. Elle avait été grignotée par un rat pendant qu'il délirait dans les fièvres du scorbut sur un bateau de pêche. Elle avait été sectionnée par des pirates sanguinaires, tranchée par un mari jaloux. Cuisiné au courbouillon par une femme folle. 6 années durant, le vieil homme raconta chaque soir une histoire différente. Mais il le faisait si bien que chaque soir, on le croyait. Jusqu'au lendemain. Une nuit, cependant, sa chaise resta vide à l'auberge. Le patron s'en inquiéta. Et à la fermeture, il se rendit chez le vieil homme, à quelques rues de là. Il le trouva mourant sur son lit, seul. La chambre était misérable, en grand désordre. L'aubergiste assista son ami de son mieux, sans songer à autre chose qu'à lui rendre un peu plus doux ses dernières heures d'existence. Mais au milieu de la nuit, voyant que la vie s'en allait, il lui vint une idée obsédante. Il résista un peu, à quoi bon ennuyer ce brave homme jusque sur son lit de mort. Mais finalement, la tentation fut la plus forte. Il se pencha tout près du visage du vieux et lui souffla. « S'il te plaît, pourrais-tu me dire, pendant que tu en as encore la force, comment tu l'as perdue, cette oreille ? En vrai, cette fois, je t'en prie. Je le garderai pour moi. » Le vieil homme lui fit de la main le signe de s'approcher. Puis, d'une voix éteinte, il balbutia.
« Cette oreille, je ne l'ai jamais perdue. Car... je ne l'ai jamais eu. Je suis né sans. »
Un léger sourire se dessina encore sur ses lèvres pâles et il rendit son âme.
« Merci, » dit l'aubergiste, « merci. »
Quelques jours plus tard, en mettant de l'ordre dans les maigres affaires du vieil homme, l'aubergiste fut intrigué par une photographie ancienne. Une photo en noir et blanc avec les bords dentelés. On y voyait un équipage sur le pont d'un bateau, un peu en retrait de tous les autres, un jeune mousse, assis sur un tonneau, fixait l'objectif. Oh, l'aubergiste trouva à ce garçon un air de malice qui lui était familier. Il saisit une loupe et il se pencha sur la photo. Il observa d'abord les yeux du garçon. C'est à l'œil qu'on reconnaît les gens. Pas de doute, c'était bien là le vieil homme du temps de sa jeunesse. Un détail pourtant stupéfiant à l'aubergiste.
Le gamin, sur la photo, avait ses deux oreilles. Une à gauche, une à droite, les deux bien en place. Il fit glisser la loupe sur les mains, posée sur les genoux. Il revint au visage, au menton, au nez, aux yeux surtout, au droit, puis au gauche. Et là, il sursauta si fort que la loupe lui en gicla des mains. Car l'œil, depuis l'autre côté de la mort, l'œil venait de lui faire un clin. De mes livres pour savoir jouer de la musique. Et il y a très longtemps, j'ai essayé d'apprendre le saxophone. J'avais 25 ans. À la troisième leçon, ma prof m'a dit « Vous devriez faire du yoga. » J'ai arrêté. Bon. Case départ. Il est assis à la table de la cuisine et il relit une fois de plus la liste des 27 recommandations. Oui, 27, il les a comptées, et il coche. Bien fermer tous les volets, ceux sur l'arrière et ceux sur l'avant. Fait. Oui, c'est même tellement fait qu'il a l'impression d'être dans un obscur tombeau. Laisser le frigo vide, débranché, propre, et tenu entrouvert par un torchon plié en 8. Fait. Prendre le sac poubelle de la cuisine, le mettre dans la grande poubelle du garage et sortir la grande poubelle dans la rue. Fait. Ne pas laisser de vaisselle sale, odeur, il n'en a pas laissé. L'écriture nerveuse de sa mère le stresse presque autant que si elle était là en personne. Certains mots sont soulignés d'un trait, d'autres de deux, plusieurs de trois. Pourquoi appuie-t-elle autant sur le papier? On dirait qu'elle a voulu le trouer de son stylo. Vérifier sous l'évier que l'arrivée de gaz est bien coupée, fait. La phrase entière est soulignée. Son père y a ajouté de sa main un croquis qui représente la poignée en position de fermeture. Et il a écrit en majuscule à côté « Poignée en position de fermeture ». Et il a dessiné une flèche entre les deux. Éteindre toutes les lampes, c'est fait, sauf celle de la cuisine, sous laquelle il se trouve à l'instant. Les autres, celles de l'escalier et du garage, il les éteindra derrière lui en sortant. Il a bien l'intention de ne commettre aucune erreur, d'atteindre la perfection. Il veut leur prouver qu'à 14 ans, on est capable de rester seul deux jours et deux nuits, puis de fermer la maison correctement, aussi bien qu'eux, sans rien oublier. Ils sont partis en vacances l'avant-veille en Vendée, avec le comité d'entreprise, comme chaque été. Mais pour la première fois depuis qu'il est né, ils y sont partis sans lui. Oh, il a dû mener un long et dur combat pour en arriver là. Il a cessé d'aller au collège, de faire ses devoirs, de leur adresser la parole et de manger pendant 72 heures. C'était au mois de février. Il faisait froid dans la maison, il s'est reclus, pelotonné dans son lit. Il a poussé le son de Dub Incorporation dans son casque et il s'est juré « Je ne céderai pas ». Jusqu'à ce qu'il lui confisque son iPod, son téléphone portable et son lecteur de CD. Alors, le silence est entré dans sa chambre et dans sa tête. Il a lissé les murs, le silence. Il a enveloppé les objets. Il s'est insinué jusque dans les replis de la couette. Il l'a combattu en relisant tous ses vieux Tintins. Haddock, Tournesol et les Dupont-Dupont sont devenus ses compagnons de lutte. Toutes les 12 heures environ, ses parents ont fait irruption, tantôt belliqueux, tantôt pacifique. Mais dans les deux cas, cela finissait par des cris, des menaces, des pleurs. Pendant 3 jours et 3 nuits, il n'est sorti de sa chambre que pour aller aux toilettes et pour boire. Il se sentait maigre, creux, efflanqué. La tête lui tournait. C'était comme une purification. Il a pensé à Gandhi, à Bobby Sands. Et puis, ils sont venus tous les deux, le troisième soir, avec gravité, comme on vient négocier un armistice. Et le dialogue a pu commencer. Ils se sont assis côte à côte au bord du lit. Lui est resté face à la cloison, leur tournant le dos. Mais ils ont réussi à se parler calmement, sans agressivité. Donc, tu ne veux pas partir avec nous cet été à la Tranche-sur-Mer? Non, c'est définitif. Oui. Est-ce que nous pouvons savoir pourquoi? Je vous l'ai déjà dit. Je m'ennuie avec vous. Sa mère s'est mise à pleurer, il y a eu un blanc. Et que comptes-tu faire si tu ne viens pas avec nous? A demandé son père, la voix tremblante. Je veux être avec des jeunes de mon âge. Je veux partir en colo. À la Tranche-sur-Mer, il y a des jeunes de ton âge. Oui. Mais il y a vous. Merci. Et qu'est-ce que tu nous reproches? Il n'a pas pu leur dire la vérité, qu'il ne les supportait plus depuis quelques mois, qu'il ne supportait plus sa façon à lui de le reprendre sans cesse, sa façon à elle de le couver comme s'il avait 7 ans. Leur façon à tous les deux de l'étouffer, de l'empêcher de vivre. Il a seulement dit, je suis allé 13 fois avec vous à la Tranche-sur-Mer et je ne veux pas y aller une 14e. Alors ils ont cherché et trouvé cette colonie de vacances pour les 10-12 ans, pour les 12-14 ans, dans la Drôme. 2 semaines, au mois de juillet, sur le thème « Nature et astronomie ».
Il ne sera pas avec des plus grands que lui, c'est rassurant. Seulement, c'est cher. 350 euros. À la tranche sur mer, il ne leur aurait rien coûté ou presque. Il a promis qu'en échange, il travaillerait bien au collège, qu'il se comporterait mieux à la maison. Il s'y est tenu. Il a mis son assiette dans le lave-vaisselle après chaque repas. Il a dit, jour, tous les matins, en arrivant au petit déjeuner. Et il a obtenu son brevet avec la mention assez bien. Vérifier que tu as ta carte d'identité, fais ton argent de poche, fais tes médicaments contre le rhume des foins, fais. Chat, remplir de croquettes sa mangeoire automatique dans le garage, fais. Remplir d'eau son abreuvoir, fais. Vérifier que la chatière de la porte du garage est bien ouverte, fais. Vérifier que le verrou de la porte du jardin est bien poussé, fais. Vérifier que la porte d'entrée est bien fermée à clé, c'est fait. Il a beau se concentrer, il ne voit pas ce qu'il aurait pu oublier de faire ou ce qu'il aurait pu mal faire. Quand ils reviendront, ils trouveront la maison comme ils l'ont laissée. Non, encore plus impeccable qu'ils l'ont laissée, puisqu'il a nettoyé le sol avec le balai, avec la serpillière, pour effacer ses traces de pas. Et ça, il ne lui avait même pas demandé. La dernière recommandation dit sortir par le garage, le fermer à clé, laissez la clé dans la boîte aux lettres. Attention. Après ça, tu ne pourras plus entrer dans la maison. Au cas où tu aurais oublié quelque chose. Il la tient, la clé, entre son pouce et son index, au-dessus de la fente de la boîte aux lettres, et il ne peut se résoudre à la lâcher. Si je fais une erreur, ils ne me feront plus confiance. Jamais. Il veut revenir dans la maison et tout vérifier une dernière fois, mais c'est trop tard. Il n'a plus le temps. Il faut encore qu'il marche avec son énorme sac à dos jusqu'à l'arrêt du bus qui l'emmènera au rendez-vous du départ. Il ouvre les doigts. La clé teinte au fond de la boîte vide. Voilà. C'est fait. Le rendez-vous est sur le parking d'une grande surface. Ça grouille d'adultes, d'enfants et de sacs à dos autour d'un grand car jaune, voyage Crozillac. Le soleil met sur cette agitation une gaieté qui lui est étrangère, à laquelle il n'arrive pas à prendre part. Il erre un moment dans ce tumulte un peu perdu. Il est le seul être venu sans ses parents, semble-t-il. Une monitrice le repère, sans doute à cause de son air égaré. Elle est petite, un peu ronde, elle porte des lunettes. Tu t'appelles ? Romero, Guillaume ? Elle le trouve sur sa liste, oui, d'accord, tu as ta fiche. Il met plusieurs minutes avant de l'extraire de son sac. Elle attend, sans rien dire. C'est bien, moi c'est Sophie. Mets ton bagage dans le coffre et monte. Dans le car, il voisine avec un garçon qui a déjà fait une colo de ce genre l'été précédent, dans le sud. Il lui raconte comment il se levait la nuit en cachette avec ses copains et il espère bien qu'ils en feront autant cette année. Guillaume l'écoute, distraitement. Il s'efforce de sourire, d'approuver. Et soudain, au moment où tout ça devient presque intéressant, oui, il raconte comment ils se sont retrouvés dehors sous la pluie, devant la porte fermée. Il est ébranlé par une sorte d'explosion mentale. C'est le mot fermé, peut-être. Qu'il l'a déclenché. Fermé. Enfermé. Ça le secoue tout entier, ça le ferait tomber par terre s'il était debout. Son estomac se noue, se tord, se remplit d'acide. Il formule muettement cette phrase de 8 mots. Terrible. J'ai enfermé le chat dans ma chambre. Son cœur cogne. Il fouille sa mémoire avec fébrilité. Est-ce que le chat est venu sur mon lit ce matin ? Oui, il y vient tous les matins. Il se fait caresser, il ronronne, il reste là une heure, ou deux même, si je ne suis plus là, et il s'étire et il sort de la chambre. Mais est-ce que je l'ai vu sortir de la chambre ? Non. Est-ce que j'ai regardé si le chat était encore dans la chambre avant de fermer définitivement la porte ? Non.
Est-ce que le chat sera sorti de lui-même, plutôt que d'habitude? Non. Pourquoi serait-il sorti plutôt que d'habitude? À présent, il en a la conviction. Il a bel et bien commis la pire de toutes les erreurs possibles, celle contre laquelle ses parents n'ont même pas jugé bon de le prévenir, parce qu'il faut être vraiment trop stupide, trop irresponsable pour faire ça, pour infliger ça à une pauvre bête innocente. Flocon, il est arrivé dans la maison 9 ans plus tôt pour les 5 ans de Guillaume, à peine sevré, minuscule, avec déjà sa petite tache blanche sous le cou, son flocon. Guillaume n'a ni frère ni sœur. Il a joué avec cette bête des centaines d'heures. Il lui a confié ses peines. Ils ont grandi ensemble. La suite du voyage est un calvaire. Les conversations, les rires, les musiques, les prises de parole des moniteurs, tout cela se confond, se brouille, disparaît, emporté par la puissance dévastatrice de cette phrase muette. J'ai enfermé le chat dans ma chambre. Le car file sur l'autoroute et l'éloigne du lieu de son crime, alors qu'il n'a que ce seul désir, y revenir. Et vite, d'urgence pour réparer. Chaque kilomètre parcouru augmente sa douleur. Il se maudit, il a envie de pleurer. Ses parents vont rentrer les premiers, dans 13 jours exactement. Combien un chat peut-il tenir de temps sans manger ni boire dans une chambre avant de mourir? Certainement pas 13 jours. Il va d'abord miauler pour qu'on lui ouvre. Il va miauler désespérément, sans comprendre pourquoi on ne vient pas le délivrer. Il va griffer la porte, il va s'épuiser à sauter contre les vitres à la fenêtre en direction du jour qui filtre à travers les volets. Il va pisser partout, il va miauler, sauter encore, ne plus avoir la force ni de miauler, ni de sauter. Et puis commencera sa longue agonie. Ça va, Guillaume ? Demande la monitrice qui passe dans l'allée. Hein? Ça va? Non, ça va pas. Mais à quoi bon le lui dire? Que ferait-elle? Le car ne va pas faire demi-tour pour lui. Et il appellera ses parents pour rien au monde. Non, il faut qu'il agisse seul et très vite. Il n'est pas question de supporter plus longtemps ce supplice. Et encore moins de vivre 2 semaines l'esprit hanté de pensées morbides et insupportables. Il est 12h30. Le car s'arrête sur une aire de repos au bord de l'autoroute. Vous avez 20 minutes pour manger votre casse-croûte et vous dégourdir les jambes, annonce le moniteur. Il descend. Il dit qu'il va aux toilettes. Il s'éloigne du groupe. Une passerelle enjambe l'autoroute. Il y monte, il la parcourt en trottinant. En bas, il voit le car jaune Voyage Crousillac dans le coffre duquel il y a son sac à dos et toutes ses affaires. Il n'a sur lui que son 2e sac, le petit, avec son casse-croûte et un Science et Vie Junior pour la route. Il redescend de l'autre côté, il court jusqu'à la bretelle d'accès et il tend le pouce. Il sent confusément qu'il fait une bêtise, qu'on va le lui reprocher. Pourquoi n'as-tu pas parlé à des adultes? Mais une force supérieure le pousse à faire ce qu'il fait. Il veut, le plus vite possible, actionner la poignée de la porte de sa chambre. Il veut voir le chat se faufiler entre ses chevilles et en sortir. Et alors seulement, il réfléchira et se demandera, bon, maintenant, comment je fais?
Thank you.
C'est la première fois qu'il monte dans une BMW. Et celle-ci est presque neuve en plus. Le bruit rond et puissant du moteur, l'odeur riche du cuir, il a l'impression immédiate d'être en sécurité. Au-delà des soucis ordinaires, les trois hommes à bord ne sont pas bavards. Ils n'écoutent pas de musique, aucun ne fume. Avec sa moustache fournie, le chauffeur ressemble à son oncle Michel, en moins gros. Celui à la place du mort est maigre, avec des yeux striés de rouge. Celui assis à l'arrière, à côté de lui, est le plus jeune. Il peut avoir une vingtaine d'années. Il est très musclé sous son t-shirt. Il se tient avachi sur son siège, les genoux très écartés. Il parle bas. Il faut tendre l'oreille. Qu'est-ce que tu fous sur l'autoroute ?
Ben, j'allais dans l'autre sens, mais je fais demi-tour parce que j'ai oublié quelque chose. Hein ?
Le gars laisse toujours un silence avant de passer à la question suivante, comme si son cerveau fonctionnait au ralenti et nécessitait un temps de réflexion avant de comprendre. Hein. T'as oublié quoi? Guillaume pourrait mentir, mais il n'en a pas envie. Ce type ne veut pas se moquer ni le critiquer. C'est le genre de personne à ne s'étonner de rien, ça se voit. Et c'est bon de pouvoir parler en toute liberté à quelqu'un comme ça. Alors, il lui raconte tout. Le départ de la maison, le chat enfermé, le car, la fuite. En effet, le type écoute et ne trouve ça ni amusant, ni surprenant, ni rien. Il se contente d'enregistrer les informations et de demander une précision, de temps en temps. Ils sont où tes parents? Ils reviennent quand? Ou bien, et la clé? Tu l'as mise où? Ah, la clé, je l'ai mise dans la boîte, Commence Guillaume, et l'idée les fleurs qui n'est peut-être pas obligé de donner tous ces détails. Le trajet lui semble deux fois plus court qu'à l'aller. Le conducteur calé sur la voie de gauche ne fait que doubler, et pourtant on dirait que la voiture se retient de donner sa pleine vitesse, qu'elle s'impatiente. Ils échangent quelques paroles grommelées que Guillaume ne comprend pas, et ils s'arrêtent à l'aire de repos suivante. Tu restes dans la voiture? On va boire un café, on en a pour 5 minutes. Cela dure un bon quart d'heure. Mais quand ils reviennent, ils ont la langue déliée. Le maigre, qui était à la place du mort, se retourne pour lui parler. Le conducteur, qui ressemble à son oncle Michel, le regarde dans le rétroviseur. C'est où chez toi exactement? C'est un lotissement? Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Il ne répond plus que le minimum. Et il le laisse tranquille. Puis son voisin musclé lui dit « Bon, on va pas te laisser dans ce merdier. Hein? On va te ramener chez nous. On va te ramener chez toi. Pour le chat. Et après, on t'emmènera.
Vous m'emmènerez où ça?
Ben, ta colo. On va pas te laisser dans ce merdier, je te l'ai dit. » Il ne se parle plus jusque dans sa rue, où il les a conduits à regret. Mais comment faire autrement? C'est laquelle, ta maison, celle-ci? Le lotissement est désert, les voisins sont déjà partis en vacances. Tu as la clé de la boîte aux lettres?
Non.
C'est pas grave. Il la force facilement avec un simple tournevis, presque sans abîmer la serrure. Ton père pourra réparer ça avec une pince. Au pire, vous en rachèterez une de boîte. Hein? Guillaume approuve, il prend la clé, il se dirige vers le garage, il entre, il monte l'escalier à la course. Il fonce à sa chambre, il ouvre la porte. Il s'attend à voir le chat fusé entre ses jambes, libéré. Mais il ne se passe rien. Il appelle « Flocon ? Flocon ?» Il revient dans la salle et trouve le chat en boule sur le canapé, endormi, paisible. Non. Il le caresse un peu. Oh, je ne vais pas m'en vanter de celle-là. Se dit-il, partagé entre la honte et le soulagement. Quand il redescend, ils sont deux à l'attendre dans le garage. Le maigre de la place du mort et son voisin musclé du siège arrière. Ça allait, ton chat? Tu l'as délivré?
Oui. Ment-il. Mais pourquoi vous êtes entré? Mes parents ne veulent pas que...
Chut. Viens, monte avec nous.
Bon, pense-t-il. Je le savais. Ça devait finir comme ça avec ces types. Il le savait depuis le tout début, depuis les toutes premières questions dans la voiture. Pourquoi leur a-t-il raconté sa vie? Pourquoi les a-t-il amenés jusqu'ici? Il a parié secrètement qu'ignorer le danger l'empêcherait d'exister. Mais ça n'a pas marché. Les pensées magiques ne marchent pas.
Et maintenant, le danger est là, terrifiant.
Il cherche autour de lui une arme avec laquelle il pourrait se battre contre eux. Sur l'établi,
il y a un marteau, une paire de tenailles.
Ils suivent son regard, comprennent et sourient.
Fais pas le con.
Viens. Ils sont avec lui dans le salon. Ils ont mis des gants. Le maigre débranche le téléviseur à écran plat, le pose sur la table et entreprend de fouiller les placards. L'autre, le musclé, est déjà dans le bureau de son père. Il en revient avec l'ordinateur familial. Non, 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 dit Guillaume, il y a toutes les photos de ma mère. Tous les souvenirs, elle va...
Le type lève juste la main dans sa direction. Ça veut dire, on ne t'a rien demandé, ne parle que si on te demande quelque chose, d'accord? Il se tait. Tout ce qu'il pourrait entreprendre lui semble ridicule.
Crier, se jeter sur eux, les menacer.
Il devrait agir, défendre les biens de sa famille. Il a presque 15 ans, il n'est plus un enfant.
Mais c'est étrange aussi, c'est un cambriolage et ça n'en est pas un. Ils font ça sans joie, sans hâte, sans peur. On dirait presque qu'ils s'ennuient. Si quelqu'un arrivait à l'improviste, il dirait la vérité.
Eux, ils ont ramené Guillaume qui avait enfermé son chat dans sa chambre. Pas vrai, Guillaume?
Tes bijoux, elle aimait où, ta mère, quand vous partez en vacances?
C'est le maigre aux yeux rouges qui a demandé ça. Guillaume se sent impuissant, humilié. Comme il ne répond pas, le musclé prend le pied de la lampe halogène du salon, il l'incline et fait mine de la lâcher.
Ah, non, dans le garage. Gémit Guillaume et il se dit qu'il fait décidément n'importe quoi pour les empêcher de casser la lampe halogène. Il vient de révéler où se trouvent les bijoux de sa mère. Il doit les accompagner, leur montrer la cachette. Une vieille boîte métallique sur une étagère chargée de pots de peinture.
Si vous venez chez moi, vous saurez où les trouver. Des fois, on fait pas tout ça.
Bon. Le maigre les met dans sa poche sans prendre le temps d'en estimer la valeur.
Il y a de l'argent dans la maison? Il secoue la tête. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais.
Les deux le regardent, dubitatifs.
Tu nous le dirais, murmure le musclé, comme s'ils étaient de vieux amis qui n'iraient pas se mentir quand même.
Oui, je vous le dirai, répond Guillaume. Et c'est vrai qu'il le dirait. La vérité, c'est qu'il a tellement peur qu'il est prêt à tout pour qu'il ne lui fasse pas de mal. Il sait déjà qu'il aura terriblement honte quand ce sera fini, mais il n'y peut rien.
Les revoilà sur l'autoroute. Aussi peu bavard qu'à l'aller. Mais cette fois, le conducteur est plus prudent. Il roule sur la voie de gauche, de droite, et plus lentement. Il s'adresse à Guillaume dans le rétroviseur.
On te ramène.
Le musclé lui explique, à raison d'une phrase toutes les 10 minutes, que c'est leur route, qu'ils avaient un autre projet en montant, mais que le coup avec lui, c'était mieux. Qu'il n'a pas à s'en faire. Qu'il n'aura qu'à se taire et c'est tout. Que ses parents sont assurés.
Guillaume l'écoute et rumine de sombres pensées. Pourquoi lui disent-ils tout ça? Pourquoi lui laissent-ils le temps de bien les observer? Dans les films, les bandits éliminent celui qui en sait trop, c'est la règle. Ils vont sans doute s'arrêter dans un bois et l'abattre d'une balle dans la tête.
Désolé, gamin. Tu en savais trop.
Mais non, il ne s'arrête pas. Ils quittent l'autoroute et le GPS les guide en moins d'une heure jusqu'au village où se trouve la colonie.
L'oncle Michel engage la voiture dans un chemin écarté et se tourne vers lui.
Il ne se donne même pas la peine de prendre l'air méchant. Il parle d'une façon tout à fait ordinaire et c'est encore plus effrayant comme ça.
Descends ici et finis à pied. Et il ajoute.
On a eu le temps de bien te voir, d'accord ? S'il y a un problème avec toi, on te reconnaîtra, d'accord?
Guillaume descend. Il leur dit au revoir.
Il est à deux doigts de leur dire merci. Peut-être qu'il leur dit merci. À la colo, ils sont hallucinés en le voyant arriver à pied, son petit sac sur le dos. Ils sont 6 autour de lui. Ils le bombardent de questions. Mais où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Il invente une histoire de médicaments oubliés. Oui, son allergie, son rhume des foins, ça l'angoissait de l'avoir oublié. Alors il a fait demi-tour en autostop. Ils sont sidérés. Mais tu es inconscient ou quoi? Oh, il va falloir te surveiller de près, toi. Ils appellent la gendarmerie pour dire que c'est bon, l'enfant est retrouvé. Guillaume demande s'ils ont prévenu ses parents. Non, ils n'ont pas pu les joindre. Ils supplient qu'on ne les prévienne pas, qu'ils vont le tuer s'ils savent. Ils disent, bon, d'accord, après tout, puisque tout est bien, qu'il finit bien. Mais qui ne s'avise pas de bouger une oreille pendant la colo, sinon... Le séjour dépasse toutes ses espérances. Il se fait de nombreux amis. Il trouve l'astronomie passionnante. Il s'est si bien comporté qu'on en oublie presque l'incident du voyage aller. Lui aussi l'a relégué très loin dans sa mémoire, au point qu'il se demande si c'est vraiment arrivé. Peut-être qu'il va trouver sa maison intacte au retour. Peut-être qu'il n'y aura pas eu de cambriolage. Mais cette fois non plus, la pensée magique ne fonctionne pas. Ses parents sont là pour l'accueillir sur le parking du supermarché. Ils l'embrassent avec une chaleur à laquelle ils n'étaient plus habitués. On n'est pas très loin de la tendresse. Oh, il a eu raison de leur tenir tête en février. Dans la voiture, ils se racontent leurs vacances respectives. « Tu nous as manqué », dit sa mère. « Mais on s'est bien amusé quand même. » Il s'étonne d'arriver à leur dire « Vous m'avez manqué aussi. »« Ouais, mon œil », dit sa mère. Ils en rient tous les trois. Puis, comme on approche de la maison, son père en vient au fait. « Guillaume, ce n'est pas ta faute. On est sûr que tu as tout fait comme on te l'a dit. On en est persuadé. La maison était propre. Tout était en ordre. Seulement, j'ai une triste nouvelle. Nous avons été cambriolés. Non ! Oh, s'exclame-t-il, et ça sonne si juste qu'il s'en étonne lui-même. Si. Ils nous ont pris l'ordinateur. Ils ont pris l'écran plat, et surtout, les bijoux de maman. On se demande comment ils les ont trouvés, mais ils les ont trouvés, ils sont très forts. On se demande aussi comment ils ont su que la clé de la maison était dans la boîte aux lettres. On ne le saura jamais. C'est comme ça. Oh non, le bijou de... Oh, reprend Guillaume, l'ordi, avec toutes les photos. Oh, pff. Oui. Et il y a quelque chose qui va te peiner encore plus, mon grand. Parce que tout ça... Ce ne sont que des choses matérielles, alors que son cœur se serre. Que s'est-il passé, papa? Il s'est passé qu'en repartant, les cambrioleurs, ces salopards, ont enfermé le chat dans ta chambre. Alors là, ça dépend. Les gens rient, comme vous avez fait, ou parfois vous faites « Oh non, non !» Les enfants, ça leur plaît beaucoup moins. Les adultes rigolent très volontiers, donc vous êtes méchants, tout simplement. Merci à toi, Martin. C'était... J'adore ta musique. Et merci de votre... Oui, on a... On a un timing parfait, là, une heure. Moi, je suis venu pour cette lecture et ça m'a beaucoup plu. J'espère qu'à vous aussi. Et je suis obligé de repartir demain matin. J'ignorais ce qu'étaient vraiment les correspondances de Manosque. Vous avez une chance immense, c'est superbe. Et je sais déjà que je reviendrai l'année prochaine en spectateur. Merci à vous.